La vie, c'est une boîte de chocolat Forest. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Les Buissonnières, l'émission mensuelle de la Maison de l'écriture de Bédarieux, se place en ce mois de février sous le signe du chat. Non qu'on apprécie particulièrement les matous, bien au contraire. La Maison de l'écriture étant un refuge de la biodiversité validé par la Ligue de protection des oiseaux, le petit carnassier préféré des Français n'est pas le bienvenu chez nous. Mais quand ce chat est un personnage de roman pour enfants, on l'adopte, d'autant que la nourriture de Minou Bonbon, puisqu'il s'agit de lui, c'est le caramel mou. Et la nourriture préférée de Minette Biscotte, c'est la biscotte, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec leur créateur, Joseph Périgaud. Bonjour Joseph Périgaud.
Bonjour Virginie Lounoni.
Le 16 février va donc paraître en librairie un livre pour la jeunesse intitulé « Libérer Minette Biscotte ». Et cette Minette Biscotte, qui a l'air de tomber du ciel, est en réalité une petite sœur lointaine d'un autre héros, d'un best-seller pour la jeunesse, Minou Bonbon, dans le livre « Qui a tué Minou Bonbon ?». Est-ce que tu pourrais nous raconter d'où sort cette Minette Biscotte et comment elle arrive sur les étals des libraires le 16 février prochain ?
Alors d'abord, une première réponse, c'est que, et ça explique pourquoi la littérature de jeunesse a pris tant d'importance dans l'édition française, ce qui a tué Minou Bonbon vit dans les rayons des libraires et dans les catalogues des éditeurs depuis 37 ans. Et c'est une des raisons pour lesquelles énormément de maisons d'édition se sont mises en fait à créer un secteur jeunesse qui représente aujourd'hui en gros un quart de la production de livres. C'est vraiment énorme.
C'est la longévité du livre qui a fait que les éditeurs se sont dit qu'ils allaient créer une littérature jeunesse.
Voilà, c'est-à-dire que tu es éditeur, tu sors un livre, il va être sur les rayons pendant 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas au juste, sur les tables, pardon, et puis ensuite il va passer sur les rayons, et puis pendant les 15 jours, 3 semaines, là, il y aura des articles de presse dans le meilleur des cas, etc., et les gens seront au courant, et puis leur œil sera attiré par le livre sur la table du libraire. Justement, la littérature de jeunesse, Minou Bonbon, 37 ans. Et c'est vrai pour un certain nombre, c'est pas vrai pour tous les livres jeunesse qui sont produits, mais peut-être un cinquième ou un quart des livres jeunesse tiennent le coup. C'est le cas d'ailleurs de ce dont on va parler, à savoir La Souris Noire, où tu as un certain nombre d'ouvrages qui sont toujours dans le catalogue.
Voilà. Alors c'est quand même intéressant que tu reviennes à la à la création de cette Souris Noire que tu as créée, parce que c'était une période où la littérature jeunesse n'allait pas de soi. il n'était pas absolument évident pour un éditeur de créer un secteur jeunesse. La littérature jeunesse était beaucoup moins importante. Et puis, il y avait le Club des Cinq, le Clan des Sept, Enid Blyton, enfin bon, des écrivains comme ça dans des petites collections pour la jeunesse, mais qui étaient quand même très tartes. Et La Souris Noire s'est inscrite en faux contre cette tradition-là.
Oui. Bon, elle n'a pas été la seule, parce qu'il y a eu effectivement dans les années 80-90 une explosion justement de la littérature jeunesse. Et aussi, on peut dire que la littérature de jeunesse est passée du statut de divertissement au statut de école de vie. C'est-à-dire que la littérature, c'est dans le meilleur des cas, c'est une école de vie. Ça fait réfléchir sur la vie, etc. Donc, et puis avant, effectivement, sauf bon, des gens comme Gallimard, mais c'était des petites maisons, des maisons spécialisées dans la littérature jeunesse. Et c'est donc, on peut dire, à la fin du siècle dernier ou au début de ce siècle, que ça s'est absolument développé. Donc, moi, La Souris Noire, bah, oui, j'étais dans ce mouvement. J'étais éditeur aux éditions Syros, qui ont maintenant d'ailleurs été rachetés par Nathan.
Tu n'étais pas éditeur, là, au moment où tu as créé?
Si. J'avais été embauché par Syros. Comme j'étais à l'époque, parmi mes nombreux métiers, imprimeur, j'avais été embauché par Syros pour le contrôle technique des ouvrages à imprimer. Et puis, cela dit, j'avais moi-même écrit un roman noir, qui avait d'ailleurs été primé. Donc j'étais lié au milieu, j'étais lié au petit monde du polar à l'époque, des Didier Daninx, des Marc Villard, des Thierry Jonquet, etc. J'étais dans ce milieu-là. D'où l'idée, comme de plus, la littérature jeunesse avait muté, comme je viens de le dire, à savoir que c'était pas de l'ordre simplement de... C'est pas seulement pour faire rigoler les gosses. Ça m'est venu spontanément de créer la Souris Noire. Je suis un amateur de jeux de mots, donc Série Noire, Souris Noire, en embauchant d'ailleurs les écrivains de polar de l'époque que je viens de citer, qui existent toujours, qui écrivent toujours, enfin qui étaient jeunes à l'époque.
Et ça, c'est une particularité de la Souris Noire qu'il faut souligner, c'est que avant il y avait des auteurs jeunesse qui avait un statut un peu à part, c'était des sous-écrivains. Et toi, tu as fait appel aux vrais, entre guillemets, écrivains, aux écrivains estampillés comme tels, pour écrire pour les jeunes, ce qui était tout à fait une nouveauté.
Oui, oui, parce que on peut dire, bon, il y a des auteurs comme Marcel Aimé, par exemple, qui ont écrit effectivement pour des jeunes, mais la nouveauté, la caractéristique, c'était qu'il y avait une grande distance entre le polar, qui charrie de la mort, des assassinats, etc., et puis le monde de l'enfant. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, ça coïncide avec un moment où, dans les années 90, à la fin du siècle, la lecture d'ouvrages pour les jeunes est entrée à l'école. C'est-à-dire que, et même je crois que maintenant, depuis d'ailleurs un certain nombre d'années, dans une classe comme le CE2, l'Instit doit faire lire au moins 10 livres aux enfants. Et donc, ma petite idée, moi, à ce moment-là, d'ailleurs, pourquoi ce texte un peu particulier, qui est un texte strictement affectif, qui a 2000 bonbons, c'est que j'avais un enfant de cet âge-là, qui était en CP, et donc je l'ai conçu comme le premier vrai roman à partir du mois de février-mars quand on commence à savoir lire, le premier vrai roman qu'on lit tout seul, Qui a tué Milou Bonbon ? Un livre qui permet d'apprendre à lire, mais école de vie, oui, puisque la mort fait partie de la vie, je veux dire, donc ça dépend comment. Il n'est pas question de créer un texte de désespérance, bien entendu. D'ailleurs, justement, ça n'est pas un texte de désespérance qui a tué Milou Bonbon, qui s'est d'ailleurs vendu à 200 000 exemplaires en 35 ans, puisqu'il y a Minette Biscotte. À la fin.
Il y a une vie après la mort.
Donc,
Mais ce que je veux dire, c'est que même l'idée du noir, c'était pas évident à l'époque. Parce que tu te souviens, c'était des collections roses, des collections vertes, c'était très pastel, etc. Et le noir, la couleur noire faisait peur.
Ben, d'ailleurs, la couverture était noire.
Oui.
La couverture était noire et jaune.
Ce qui était très inhabituel. Pour de la littérature jeunesse.
Oui, oui. D'ailleurs, elle a été sujette à pas mal de critiques. Hein, dire enfin, c'est quoi, toi, comme si c'était une manière de perversion, enfin, de faire lire des choses pareilles aux enfants. Mmh. Aujourd'hui, on a fait bien pire. Hein,
oui.
Je veux dire, aujourd'hui.
Et d'ailleurs, aussitôt après l'avoir critiqué vertement, les éditeurs se sont mis à limiter parce que dans le sillage de la souris noire, quantité d'éditeurs ont créé des collections polars pour la jeunesse.
Oui. Et puis on peut dire que l'éducation nationale, d'une certaine manière, l'a encouragé, puisque Qui a tué Milou Bonbon s'est vendu à 200 000 exemplaires, c'est aussi, c'est surtout parce que le livre a été inscrit dans la liste qui d'abord a été obligatoire, mais quelque temps, mais ça n'a pas duré, la liste conseillée par l'éducation nationale pour le CP, CE2, CE1, je crois.
Du coup, c'est un livre qui a bénéficié d'achats collectifs de la part des écoles, etc.
Voilà. Et puis donc, pour ça, Syros, les éditions Syros, puisque c'est là l'éditeur, ont eu la bonne idée de faire un livre cheap. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, les livres pour enfants, c'était plutôt des albums en couleur, avec une couverture en carton
voilà.
et coûtant donc relativement cher. Tandis que là, d'ailleurs, La Souris Noire a commencé comme ça. Quand je l'ai créé, c'était cartonné, il y avait des dessins à l'intérieur. Mais elle a vraiment pris son envol grâce à la liste de l'éducation nationale, mais aussi grâce à son côté cheap. Je crois que ça se vend de 2,90 euros, je ne sais pas exactement.
Comme un format poche, quoi.
Comme un format poche.
Il y a la version cartonnée et il y a le format
voilà.
poche.
Et d'ailleurs, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, alors que les illustrations, pour les enfants, les livres pour enfants, c'était quasiment incontournable.
Incontournable, voilà. Et alors, parle-nous un peu de cette collection Souris Noire. Ça a produit quel effet dans le panorama éditorial français ?
Ben, en tout cas, ça a produit un effet pour Syros, puisqu'en fait, Syros avait commencé à faire des livres pour enfants, et la Souris Noire lui a fait faire un bond.
Ouais.
Bon, de plus, Syros était très bien distribué, était très bien diffusé par la boîte de diffusion de Gallimard. Alors, à l'échelle de tout le secteur, ça a forcément fait
Ouais.
et je pense que ça a pu d'ailleurs avoir un effet sur la production, donc faire des productions plus osées, voilà.
Oui. En tout cas, au moment où c'est paru, moi je m'en souviens très bien, La Souris Noire, c'était vraiment la collection extraordinaire, la collection hors norme, la collection jamais vue dans le paysage jeunesse.
Oui. Oui, c'est vrai.
Ou même l'école des loisirs, qui avait des auteurs et des illustrateurs prestigieux qui pouvaient avoir une certaine audace en tant qu'individu, n'avaient pas promu une telle oui. déconstruction, si on peut dire, de ce qui faisait la conception jusqu'alors du petit enfant qu'il fallait protéger de tout, etc.
Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a une explication à cette, appelons ça, audace. C'est que j'y connaissais rien. Enfin, oui. j'avais fait des enfants, j'avais acheté des livres pour les enfants, etc. Bon. Mais je débarquais dans les éditions Syros. J'ai eu la petite idée. D'ailleurs, qui a tué mes nombreux mots, c'est mon premier livre pour enfants. Mmh. Après, j'en ai fait quelques dizaines, y compris avec Virginie Louloni. Mais c'était le premier. Donc il y avait une forme d'innocence aussi au départ, tu vois. C'était pas connaissant bien le milieu, je vais faire un coup.
Ouais, ouais.
Non ? Non.
C'est aux innocents les mains pleines, quoi.
Oui, oui, voilà. Voilà, c'est un peu ça.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu qui a tué Minou Bonbon ? Alors comment ça se présente ?
Je peux peut-être lire le tout début.
Oui, 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 voilà. Avec plaisir.
Qui a tué Milou Bonbon ? Quand il était jeune, le père Latulle était un grand navigateur. Il naviguait sur les toits du quartier, gaiement, car il adorait son métier de couvreur. « Hé, Latulle ! » lui criait-on d'en bas. « Ne tombe pas dessus ! On en reçoit assez comme ça, des tuiles !» Latulle rigolait. Latulle rigolait tout le temps. Les nuits de tempête, il ne tenait pas au lit, il sillonnait le quartier tout excité, il applaudissait quand une tuile s'envolait, et quand une cheminée dégringolait, il criait « Youpi !» Le lendemain, il s'élançait sur sa grande échelle coulissante avec ses outils de couvreur, et aussi avec ses bonbons. Oui, 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 plein de bonbons dans les poches du veston. Le père Latulle était gourmand comme un chat. Un jour, pourtant, dans une gouttière, il était tombé sur un chat de gouttière, plus gourmand que lui, plus gourmand que tous les chats. « Oh ! Le cochon !» s'était écrié la tuile. « Il m'a piqué tous mes bonbons !» Le chat s'était caché derrière une cheminée. « T'as même bouffé les papiers avec, les petits couillons !» Il avait appelé le petit couillon Minou Bonbon. Et Minou Bonbon ne l'avait plus quitté. Pendant des années, ils avaient ensemble navigué sur les toits, ils avaient ensemble vieilli, leurs poils avaient blanchi. Il n'était plus question aujourd'hui de monter sur les maisons, ils passaient leur journée sur le pas de la porte à mâchonner des caramels mous. Ça se mange sans dents, les caramels mous. Sauf que... Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire.
J'espère bien.
Et, achetez donc, soyez le 201 millième acheteur. Sauf que le petit voleur a été assassiné. Assassiné. Je ne vous dirai pas comment, vous le découvrirez à la lecture. Et il a été assassiné, et ça a été forcément une affaire terrible pour le père Latulle, parce que c'était son enfant, c'était son ami, c'était beaucoup pour lui. Il y a une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que si le petit voleur a été assassiné, ça a été découvert par Nico, qui est le personnage central du livre, et qui a fait une enquête et qui a trouvé le voleur.
Le meurtrier, tu veux dire ?
Qui a trouvé le meurtrier. Donc l'affaire est absolument terrible pour le père Latulle. Il monte le long de son échelle, alors qu'il n'y avait pas monté depuis très longtemps, avec le petit Minou Bonbon mort dans les bras. Il s'installe sur le toit et il dit... Moi, je bouge plus. Je reste ici, avec mon minou. J'ai plus rien à faire en bas. Les uns après les autres, les copains de Nico montèrent à la gouttière. C'était comme un enterrement, ils allaient dire adieu à Minou Bonbon, mais aussi serrer la main au vieux La Tuile. Tout le monde avait larmes à l'œil. Nico écrivit sur la rue, en grandes lettres pour qu'on puisse lire d'en haut, « Adieu, Minou Bonbon ». Inquiet de ne pas voir rentrer les enfants, les parents s'étaient retrouvés au pied de l'échelle. Il y avait toute une foule, mais personne n'essayait plus de faire descendre le père La Tuile. On lui monta une part de flan, de la part de la boulangère, ça se mange sans dents le flan. Un vieux maçon, vieux copain du vieux couvreur, retira sa pipe et cria « Eh, La Tuile, nous tombe pas dessus !» La Tuile ne rigola pas. Tout à coup, une petite chatte, rouquine, traversa la foule. Sans hésiter, elle sauta sur le premier barreau de l'échelle et hop, en un clin d'œil, elle était en haut. Elle s'élança dans les bras du père La Tuile. Et c'est là que ça commence. Minette Biscotte.
Donc, ça commence, mais il y a 30... Combien tu as dit tout
alors,
à l'heure ?
Oui, alors, 37 ans de différence. Alors, comment se fait-il que la suite de Minou Bonbon ait été écrite 37 ans ? Et d'ailleurs, c'est ce qui a... je me suis moi-même surpris. J'ai dit, tiens, bon, un jour où il pleuvait, peut-être. Tiens, ouais. Et puis, le sirop, ça a été aussi surpris et agréablement surpris. Sandrine Mini, la directrice, qui dit, ben là, j'ai reçu comme un cadeau. Elle me l'a écrit comme ça. Et voilà, et l'éditrice de Syros dit bah moi, voilà, ce sont mes deux chats préférés, Minou Bonbon et Minette Biscotte. Enfin bref, il y a une petite effervescence autour de cette suite qu'on n'attendait pas.
Et comment tu l'as vécu, toi, l'arrivée de Minette Biscotte ? Seulement de la surprise ou...
L'arrivée.
Ça fait... Minou Bonbon, c'est de l'histoire ancienne pour toi.
Oui.
Et puis brusquement, là, crac, Minette Biscotte revient en surface. C'est quand même étrange.
Eh bien, tout à l'heure, on parlait d'innocence. Quand j'ai écrit le numéro 1 de la collection Souris Noires, ben là, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'innocence. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et alors, justement, tu disais, tout à l'heure, que cette minette, en fait, je ne sais plus l'expression que tu as utilisée, et moi j'utilise une autre expression qui est une petite ravisée. Alors je ne sais pas si c'est, si c'est du dialecte normand ou si c'est connu.
Oui.
Oui, alors la petite ravisée, en Normandie donc peut-être, c'est l'enfant que les parents font 10 ans après le premier. Voilà, il se ravise, se raviser, ça existe en français, se raviser.
Oui, tout à fait.
Et donc l'enfant, on l'appelle le petit ravisé. Ben, la minette, c'est la petite ravisée.
D'accord. Et alors ?
Et alors, je disais... Je ne sais pas pourquoi. Je vieillis. Alors, quand on vieillit, on retourne en enfance, paraît-il. C'est vrai que je suis peut-être à nouveau un peu tenté par l'écriture pour les...
Pour les jeunes.
Pour les jeunes, oui. J'ai fait le tour de l'écriture pour les vieux. Aujourd'hui, l'édition française est totalement prise par le profit.
Alors, raconte-nous un peu cette Minette Biscotte. S'il faut la libérer, c'est qu'elle est emprisonnée.
Donc, quand la Minette se blottit dans les bras du père La Tuile, qui se trouve sur le toit, la foule applaudit. Vive Minette Biscotte ! Parce que cette chatte, en fait, était connue pour raffoler des biscottes de Madame Baguette, la gentille boulangère. Elle vivait au château, cette minette, la demeure de Victor Crespin de la Rocherie, le maire du village. Suffoquant de chagrin, le vieux couvreur creusa un trou dans son jardin sous le figuier en fleurs. Il y déposa délicatement Minou Bonbon avec ses petites affaires, son panier, son coussin, son collier, son écuelle. Il garda la baballe en mousse, toute mordillée avec laquelle le Minou aimait jouer. Minette Biscotte assista à la scène sans broncher. Elle avait compris que le moment était grave. Elle suivit le père Latuile dans la maison et se leva à ses pieds avec des miaulements très doux. Le vieil homme accompagna les miaulements de ses propres gémissements. C'était comme un hymne à la mémoire de Minou Bonbon, victime de la bêtise humaine. Cela dit, la vie continuait. Et c'est sans doute ce que la Minette voulut faire comprendre au père Latuile quand elle sauta sur ses épaules et que, hop, de là, elle se projeta sur le mur et grimpa jusqu'au plafond. Ah, mais c'est ce qu'elle était fière de son coup. Le père Latuile laissa échapper un vrai rire en se tenant l'estomac. Minette Biscotte s'élança alors du plafond et hop, atterrit si violemment dans ses bras que le vieux couvreur se retrouva sur le cul, riant de plus belle. Une amitié était née. Mais, rien n'était gagné. Comment allait réagir le maire en apprenant la fugue de la chatte du château ? Car c'était le cas, c'était la chatte du maire du village. Un homme hautain et méprisant qui gérait un énorme élevage industriel de porcs. Il y avait 700 habitants dans la commune et 5000 cochons. On ne pensait qu'à leur viande, ils ne sortaient jamais de la porcherie. Ils étaient flanc contre flanc sur un sol en béton, pas un brin de paille. Le béton était troué pour laisser passer leur déjection. Et c'était une puanteur infecte et ça rendait les bêtes malades. On les bourrait d'antibiotiques. Crespin de la Rocherie avait de nombreux ennemis. Manu, par exemple, le père de Nico, l'appelait crétin de la porcherie. Mais cet individu riche et sans scrupules donnait du travail à une bonne partie du village. C'est pourquoi il en était le maire depuis de nombreuses années. Quand il sut que la chatte, sa chatte, avait élu domicile chez l'ancien couvreur, son sang royal ne fit qu'un tour. Il envoya son fils aîné, Théophile, récupérer la fugueuse. Mais Minette Biscotte avait une telle énergie et une telle envie de rester avec son nouvel ami qu'elle fit tourner en bourrique ce Théophile, un adolescent à l'air timide. Elle grimpa au plafond, comme elle savait le faire, et poussa un miaulement en saccade qui ressemblait à un rire. Quand il essayait de l'attraper, elle lui fila entre les jambes et lui mordait le derrière. Et hop, elle regrimpait sur le mur. Théophile était en sueur, haletant, chancelant. Ce fut le coup de grâce quand elle lui pissa sur la tête. Il s'enfuit. Le père Latuile, hilar, cria « Vive Minette Biscotte !» Le lendemain, trois employés de la porcherie débarquèrent avec une échelle et un filet de pêcheur. Ils étaient gênés, ils s'excusèrent auprès de M. Latuile, qu'ils connaissaient depuis toujours, mais ils n'avaient pas envie de perdre leur travail. Ils n'eurent aucun mal à attraper la Minette. Prise dans les mailles du filet, elle se débattut comme une diablesse, puis brusquement, elle s'immobilisa et hurla à la mort comme font les chiens. Le père Latuile se saisit d'une pique en fer de la cheminée prêt à embrocher les agresseurs. Deux hommes le ceinturèrent pendant que le troisième emportait Minette Biscotte en la tenant par la peau du cou. Il ne resta d'elle qu'une touffe de poils roux accrochée à l'osier de son panier. Nico avait l'habitude en sortant du CP de venir embrasser son vieux copain le couvreur. Il le trouva ce jour-là avachi dans son fauteuil devant la cheminée éteinte. il jouait mollement avec la babale du dessin minou. Nico dit « Elle est où, Minette Biscotte ?» Le père Latulle mit du temps à répondre. Ils me l'ont volé. Qui ça, il ? Les larbins du maire. Nico était accablé. Tout ce qu'il trouva à faire, c'est de sortir une poignée de caramel de la poche de son blouson. Ah, c'est pas de refus, dit le vieux, les yeux mouillés. Ils mâchonnèrent leur caramel en silence. Un mercredi, désœuvré, marchant un peu au hasard, Nico se retrouva devant le château. Qu'est-ce qu'il était moche, ce château, avec ses deux tours pointues qui ne servaient à rien. Il y avait au moins 20 pièces dans cette bâtisse, idiote. Il faut dire que Crétin de la Porcherie avait fait une ribandelle de petits crétins, Nicolas n'en connaissait aucun, car il n'allait pas, bien entendu, à l'école du village. Le chauffeur les conduisait à la ville dans une école privée. Accroché à la grille, Nico espérait apercevoir Minette Biscotte à l'une des nombreuses fenêtres. Depuis sa capture, elle ne traînait plus dans le village. Madame Baguette, la fournisseuse de biscottes, s'en étonnait, s'en inquiétait. Bah, après sa fugue, elle doit être enfermée à double tour, lui avait dit Manu. Une limousine noire, aux vitres teintées, surgit sur la route et s'arrête devant la grille au pied de Nico. Monsieur le maire est au volant. La vitre s'abaisse. « Je te connais, toi, qu'est-ce que tu cherches ?» dit le maire agressif. Rien, je me promène. » Le portail s'ouvre lentement. « Allez, fous le camp, laisse-moi passer. »« Pourquoi vous me parlez comme ça ?»« Fous le camp, je t'ai dit. »« Mais je n'ai rien fait de mal. » Le maire fait rugir le moteur. Nico reste campé sur ses jambes, le regard noir. Le maire s'éjecte de son siège, lui assène une paire de gifles et le bouscule. Dans un crissement de gravier, la voiture franchit la grille. Nicolas crie « Crétin de la Porcherie !» Mais il s'enfuit tout de suite quand deux molosses tigrés sortent en trombe du château. Cet incident fit le tour du village, mobilisant tous ceux qui détestaient le maire et avaient de la sympathie pour le vieux couvreur. Les murs se remplirent de graffitis. « Ah ben, Crétin, il torture les cochons, il pourrit notre sol, il bat nos enfants, libérez, libérez, Minette Biscotte !» Le mot d'ordre fut lancé d'aller vider sa poubelle chaque matin devant l'entrée de la mairie. Et ça tourna au vinaigre, avec la police municipale dont le maire était donc officiellement le chef. La mairie fut protégée par des fils de fer barbelés, comme si c'était la guerre. De fait, c'était la guerre. Une petite guerre, sans importance, dans un coin perdu du pays et à cause d'une adorable petite chatte pleine de vie. Le maire convoqua un conseil municipal exceptionnel fermé au public. Il en avait le pouvoir, mais c'était une grossière erreur. Dès 8 heures du matin, une foule s'était regroupée devant la mairie avec une pancarte « Tous au conseil municipal ».
Donc c'est la révolution enseignée aux enfants, ça.
Oui, 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 oui. Et à un moment donné, d'ailleurs, le père de Nico dit, ben oui, la révolution de 89, ça a commencé par une augmentation du prix du pain, voilà, libérer Minette Biscotte.
Et voilà.
Et voilà, tout le monde est dans la rue. Et donc c'est un enseignement presque pour les enfants.
Très bien, très bien. Merci Joseph Périgaud.
De rien, Madame Virginie Lounoni.
C'était Les Buissonnières, l'émission mensuelle de la Maison de l'écriture de Bédarieux, à retrouver le deuxième mardi du mois et le deuxième dimanche du mois à 10h sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. D'ici là, nous vous souhaitons de belles découvertes sur les sentiers buissonniers.